Frères et sœurs, aujourd'hui, Jésus ne parle plus en parabole et en figure. On pourrait dire qu'il n'y va pas par quatre chemins. Il nous appelle tout au long de cet évangile à manger son corps et à boire son sang, car sa chair est la vraie nourriture et son sang est la vraie boisson, puisqu'elle procure la vie éternelle. Une révélation puissante, sans voile et sans détour, qui ne manque pas de susciter parmi les Juifs qui l'écoutent des questionnements. Comment celui-là peut-il nous donner sa chair à manger, celui-là ? La réponse à leur question est bien dans ce terme méprisant, celui-là, ce rabbi séditieux, dont nous allons d'ailleurs bientôt nous débarrasser. Celui-là, comment celui-là peut-il nous donner sa chair à manger ? Mais celui-là, comme ils disent, celui-là, frères et sœurs, n'est autre que le Fils de Dieu fait homme, le Verbe incarné. Oui, celui qui est venu mêler sa divinité à notre pauvre humanité, pour que nous puissions être là, aujourd'hui, rassemblés pour l'Eucharistie dominicale et surtout pour communier à sa vie divine en partageant le pain nouveau de la vie éternelle. Oui, frères et sœurs, l'Eucharistie, c'est le plus grand de tous les mystères de la foi. Justement parce qu'il fait appel à la foi qui consiste à croire que Jésus le Christ est la pleine révélation du Père, qu'il est le pain descendu du ciel et que ce pain invisible à l'œil nu ne se laisse saisir que par les yeux de la foi qui seul peut contempler l'invisible. Oui, il est grand le mystère de la foi, comme nous le chantons à chaque Eucharistie. Il est immense même ce mystère, un miracle que Dieu accomplit chaque jour pour son Église, par les mains de ses prêtres et par la puissance surtout du Saint-Esprit. Ce miracle est aussi grand que la création elle-même. Mais nous avons, hélas, de plus en plus de mal à déchiffrer dans la création elle-même le premier livre où Dieu se dit, où Dieu se révèle. Pourtant, cette création est sortie des mains du Créateur tout simplement parce qu'il l'a voulu et qu'il est tout puissant. Un jour, Céline, la sœur de la petite Thérèse de l'enfant Jésus, qui n'avait alors que 4 ans et demi, lui demande si elle n'a pas de difficulté à croire à la présence du Christ dans la petite hostie de l'autel. Non, lui répond alors sa petite sœur, puisque Dieu est tout puissant. Et qu'est-ce que ça veut dire tout puissant, répond Céline. Eh bien, répond Thérèse, c'est de faire tout ce qu'il veut, tout simplement. Et la toute-puissance de l'amour de Dieu pour nous se révèle davantage dans l'Eucharistie que dans la création elle-même. Oui, car la création n'est là que pour nous donner d'avoir part à la présence de Dieu et à entrer dans sa vie pour toujours. Nous n'avons été créés que pour cet amour, nous dit saint Jean de la Croix. La vie de l'homme, autrement dit, n'est réussie que s'il découvre au cœur du mystère des choses celui qui en est la source et l'origine et qui l'appelle. Il n'y a pas de rupture entre le Créateur et le Rédempteur. C'est le même dessein qui parcourt toute la Bible et qui vise toute l'existence humaine. Dieu, notre Père, veut que nous soyons ses enfants. N'est-ce pas merveilleux ? Et pour cela, il veut être notre Père et notre Père nourricier. Notre Père nourricier. C'est proprement incroyable. Mais cela n'en demeure pas moins vrai non plus. Vous l'avez entendu ? Oui, Dieu veut être notre Père nourricier, comme il nourrit les oiseaux du ciel qui se battent, si cependant ne filent ni ne moissonnent. Il veut nourrir notre âme, qui vaut bien plus que tous les moineaux du ciel réunis. Il veut nourrir notre âme de sa présence. Oui, parce que notre âme est faite pour, elle est immortelle, elle est faite pour l'éternité. On peut admirer les oiseaux, c'est pas ça que j'ai voulu dire, bien compris. On pourrait ici répertorier, en parcourant toute l'Écriture, les nombreuses mentions des repas où Dieu s'invite, où il invite l'homme à sa table. Rappelez-vous, il y a d'abord l'épisode fameux, immortalisé par l'icône de Roublev, le grand peintre russe, maintenant très connu cette icône, qu'on appelle l'icône de la Trinité, en fait qu'il faudrait appeler du nom originel de l'auteur, c'est-à-dire l'hospitalité d'Abraham. Car c'est Abraham qui accueille ces trois mystérieux personnages et qui les invite à partager le repas qu'il fait préparer à sa femme Sarah, qui reçoit de leurs invités la promesse de la naissance future d'Isaac, alors qu'elle n'a plus l'âge d'être enceinte. Rappelez-vous aussi dans le livre de l'Exode, Moïse et Aaron et les 70 anciens d'Israël qui gravissent la montagne du Sinaï, et le texte mentionne « Ils virent Dieu ». Puis ils mangèrent et ils burent. Rappelez-vous surtout l'évangile et les noces de Cana, où Jésus inaugure son ministère apostolique par le premier signe miraculeux de son ministère. Le voilà qui transforme l'eau en vin en réponse à une demande de sa mère. Et voici le meilleur des vins qui vient réjouir le cœur des invités. Rappelez-vous enfin l'invitation du livre de l'Apocalypse, chapitre 3, verset 20. « Voici que je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui. Je prendrai mon repas avec lui et lui avec moi. » Et j'en oublie, certainement. Vous voyez cette insistance de Dieu à nous inviter à prendre part avec lui à un repas. Autrement dit, à être ses convives. Mais ne nous y trompons pas, il ne s'agit pas de ce vin que la terre produit et dont l'excès peut nous porter à l'inconduite ou à la débauche, comme nous le rappelle saint Paul. Ne vous enivrez pas de vin, c'est l'excès qui est mauvais. Hein. Je sais que là je suis en terre bordelaise, alors là je n'ai pas envie de me faire lyncher. Bon, ne vous enivrez pas de vin, voyez, car il porte à l'inconduite. Le vin qu'il nous est proposé de boire, eh bien, c'est celui de la sagesse, celle qui consiste à vivre ici-bas en bonne intelligence avec Dieu, autrement dit en faisant sa volonté tout simplement. Mais cela dit, cette volonté, nous ne pourrons l'accomplir qu'en écoutant sa parole et en la mettant en pratique. Mais en même temps, la mettre en pratique, cela n'est possible qu'en recevant de Dieu la grâce d'accomplir sa volonté. Autrement dit, nous sommes toujours renvoyés à Dieu qui est notre premier principe, notre Père, sans lequel nous ne pouvons pas subsister. Nous sommes les enfants, mais l'enfant, il a toujours besoin de son père, de ses parents pour grandir et pour vivre. C'est la même chose pour nous. Autrement dit, nous avons besoin, un besoin absolu de ce pain qui descend du ciel, qui est rompu pour la vie du monde. Sans lui, nous ne pouvons rien faire. Nous avons besoin d'être sustentés par celui sans lequel nous n'existerions même pas. Nous sommes invités à chaque Eucharistie à avoir part à cette vraie nourriture, à cette vraie boisson, la chair du Fils de Dieu qui a donné sa vie pour que nous vivions par lui. Que nous vivions par lui. Celui qui me mange, lui aussi, c'est Jésus qui parle, écoutez bien, lui aussi vivra par moi. Et qu'est-ce que je vais dire? Qu'est-ce qu'on va dire les prêtres à l'autel tout à l'heure, dans un instant? Par lui, avec lui et en lui. Par lui, avec lui et en lui. Cela veut dire que sans lui, on ne peut rien faire, mais que par lui, on peut tout. On peut véritablement, eh bien, devenir ce que nous recevons. Le Christ nous donne sa chair à manger, sa chair transfigurée, ressuscitée, sacramentalisée, pourrions-nous dire. Hein, gardons-nous du physicisme, évidemment, cette hérésie. Hein, c'est une présence sacramentelle, mais qui n'en est pas moins réelle. Pourquoi? Parce que Dieu est tout-puissant. Et si vous me demandez ce que ça veut dire tout-puissant, eh bien, je vous renvoie à la petite Thérèse. Écoutez bien ces mots de Paul VI. Toute explication théologique doit maintenir que dans la réalité elle-même, indépendante de notre esprit, le pain et le vin ont cessé d'exister après la consécration. En sorte que c'est le corps et le sang du Seigneur Jésus, si dignes d'adoration, qui sont réellement présents devant nous. Ah, quel mystère ! Et pourquoi Dieu se voile sous les espèces du pain et du vin ? Mais parce que si nous voyons sa gloire, nous ne pourrions résister à entrer dans sa gloire. Nul ne peut voir Dieu et vivre sans mourir. Voyez, il voile sa gloire parce que nous ne sommes pas capables, ici et maintenant, tels que nous sommes, de le voir, de la voir, de la... Et cette gloire qui nous ferait mourir si nous la voyons. Le Christ préfère se voiler, se cacher, mais il est réellement, néanmoins, réellement présent. C'est le mystère de la foi. Il est grand. Ce mystère que l'Église est chargée de célébrer, de maintenir jusqu'à la fin des temps. Le mystère d'un Dieu qui vient prendre part à la vie de l'homme en se donnant à lui corps, âme, divinité, pour que l'homme se laisse transfigurer par cette présence et devienne lui-même une pâte nouvelle, pour se donner aux autres par amour, à l'exemple de son Seigneur qui a donné sa vie pour lui. L'Église est une communion parce qu'elle communie à la même foi et au même credo que nous allons professer tout à l'heure, mais aussi et surtout parce qu'elle communie au même pain. Ce pain, c'est le pain du Christ donné pour la vie du monde entier. En recevant le corps du Christ, nous devenons nous-mêmes son corps pour rendre témoignage de la présence et de la vie de Dieu au cœur de ce monde. L'Eucharistie, comme son étymologie grecque l'indique, Eucharisto, je suis allé en Grèce, extraordinaire d'entendre les Grecs dire Eucharisto, pour dire merci. Et si vous êtes poli, vous dites Eucharisto, poli, merci beaucoup. Eucharisto, cela signifie que l'Eucharistie est avant tout une action de grâce, une reconnaissance pour le don de ce mystère qui est grand, qui est immense, le mystère de la foi d'un Père nourricier, un Père des cieux qui veut nous nourrir de la présence de son Fils bien-aimé, qui est le pain véritable descendu du ciel et qui donne à ceux qui le reçoivent avec foi, bien entendu, sans la foi. Sans la foi, il est impossible de recevoir pleinement ce don, bien entendu. Mais dès lors que nous le recevons avec foi, nous recevons en même temps le don de la vie qui ne finit pas, la vie éternelle. À qui donc irions-nous, Seigneur, puisque c'est toi qui as les paroles de la vie éternelle.